À la page 138, on est Bezrat Hashem dans notre dernier cours sur le Perek Memtet, chapitre 49. Et on est à Ach Eri Prinat Dabkud Rucha Berucha. Donc faire un petit point où on en est dans le Perek Memtet, dans le chapitre 49. D'accord ? Où on est dans le Perek Memtet, dans le chapitre 49. On a expliqué longuement dans le chapitre 49 comment, de manière générale, on a montré explicitement, depuis le début du Perek Memtet, on a montré explicitement comment Akadosh Baruch Hu, même si on avait du mal à comprendre comment Akadosh Baruch Hu nous a créés, etc. Mais ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que pour arriver à nous créer, Akadosh Baruch Hu a dû se limiter, a dû se contracter. D'accord ? C'est ce qu'on appelait le Tzimtzum. Donc puisque Akadosh Baruch Hu s'est contracté pour nous créer, donc on revient à la parabole qu'on a donnée dans le chapitre 46. C'est quoi la parabole qu'on a donnée dans le chapitre 46 ? La parabole qu'on a donnée dans le chapitre 46, c'est que si le roi s'est contracté, d'accord, et a fait rentrer dans son palais quelqu'un qui ne méritait pas et qui ne va rien amener au roi, d'accord, que le roi n'a rien à tirer de lui, et que le roi pourtant le fait rentrer et lui donne du kavod, il est évident que la personne, au bout d'un certain moment, il va craquer, d'accord, et qu'il va, quand il va regarder le roi, d'accord, qu'est-ce qu'il va voir dans les yeux du roi ? Il va voir seulement les yeux de celui qui est son bienfaiteur, et c'est sûr que, c'est bon David ? C'est sûr qu'il va lui être reconnaissant. Donc on a expliqué que de la même manière, nous on doit arriver également à cette même conclusion. On doit arriver à cette même conclusion que puisque Akadosh Baruch Hu s'est contracté pour nous, donc nous aussi on doit contracter notre ego pour nous. Ça c'était le grand mot qu'on avait dit il y a 3 semaines. D'accord ? Que si Akadosh Baruch Hu s'est contracté pour nous, et que quelque part Akadosh Baruch Hu a sacrifié le spirituel, d'accord ? Il a créé notre monde dans lequel il y a une sensation de, dans lequel on a une sensation de, d'existence et, de, et, d'être ind, et d'indépendance. D'accord ? Et que quelque part, le Zohar nous a dit que ça, pour ça, Akadosh Baruch Hu s'est sacrifié. Donc nous, de l'autre côté aussi, il est évident que sacrifier notre ego par rapport à ça, c'est rien du tout. Bon, alors ça, c'est ce qu'on a expliqué il y a 3 semaines. Non, là, il a posé la question de Morazaken, il a dit, mais c'est bien beau l'idée que tu me dis, mais comment tu attends que moi, j'arrive à ça ? Comment tu attends que j'intègre ça dans ma vie ? Alors il a expliqué qu'une des techniques que les Chachamim nous ont données, c'est les brachot du Kriyat Shema avant le Shema. C'est expliqué. Il a expliqué que si on analyse les brachot du Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tout d'abord, en vérité, les brachot du Kriyat Shema n'ont rien à voir avec le Shema. Et tous les poskim le disent, le Rashba le dit, Maïmonide le dit, ils n'ont rien à voir avec le Kriyat Shema. Ça veut dire qu'à la limite, on aurait pu les instaurer au début de la prière, ça aurait été la même chose. Seulement, pourquoi on les appelle les brachot du Kriyat Shema ?
Oh, du matin.
Du matin. Prends les appels et brachot du Kriyat Shema, même le soir. Mais bon, pour l'instant, je suis dans ceux du matin.
Je sais pas. Donc...
Même le soir.
Quand tu as dit au début de la prière, c'est comme ça que j'ai posé la question. Ouais. Parce que c'est le début de la prière.
Donc on aurait dû les instaurer, donc celle du matin, on aurait dû les instaurer au début de la tefila. Il y a pas de... Elles n'ont pas... On explique que les brachot du Kriyat Shema n'ont rien à voir avec l'Amida, avec le Kriyat Shema. Sauf que quoi ? La seule réponse qu'on va dire, c'est qu'en vérité, les brachot du Kriyat Shema sont une introduction au Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kriyat Shema ? Tout d'abord, on va analyser les deux brachot du Kriyat Shema. Quand on analyse les deux brachot du Kriyat Shema, on voit que dans la première bracha avant le Kriyat Shema du matin, de quoi on va parler ? On va parler principalement des Malachim, donc de la création du monde. On ne parle pas du tout de Bnei Israël. D'accord ? On parle principalement, d'abord, on raconte la création du monde, comment Dieu a créé la lumière, il a créé l'obscurité, il a créé l'onde, et progressivement comme ça, après on parle des Malachim. On ne parle pas du tout, d'accord ? En tout cas, pas explicitement, des Bnei Israël. Donc on essaie de décrire, et on voit comment tout est fait, quand on analyse, maintenant on a des traductions, quand on analyse la première bracha du Kriyat, avant le Kriyat Shema, on voit que tout est fait pour éveiller l'extase de l'homme progressivement. Tout d'abord on va lui parler de la création du monde, de la lumière, après petit à petit on va avancer, elle va avancer, jusqu'à la fin l'extase c'est quand on lui parle des Malachim. Ça c'est le top. D'accord ? À la fin, Kadosh, Kadosh, Yotzer, Ameorot, etc.
Alors...
Oui. Ouais.
Voilà. Kadosh, Kadosh, il rentre. Il la provoque, hein.
3 fois. Donc tout est fait pour éveiller l'extase de l'homme.
Quelle entrée fracassante.
J'ai pas fait exprès.
Ouais, c'est ça, il s'est pas fait, il a fait...
J'ai même pas pensé à ça.
C'est pour ça que je dis qu'il a fait fort.
Tout est fait pour amener l'homme à l'extase, que l'homme soit impressionné de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on dit après dans la seconde bracha, hein ? Dans la seconde bracha, la seconde bracha qui est avant le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on va dire dans cette seconde bracha ? Dans cette seconde bracha avant le Kriyat Shema, ce qu'on va dire, là tout à coup on va se mettre à parler de l'importance du Ham Israël. Comment Akadosh Baruch Hu nous a choisis, comment Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et comment Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, et comment Akadosh Baruch Hu nous a aidé à nous a sauvés quand on est attaqué par Amalek, etc. on parle comment Akadosh Baruch Hu nous aime et comment Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Et le mot de la fin, juste avant de démarrer le Kriyat Shema, c'est quoi? Baruch Ata Hashem, Abocher, Be'amo Israël, Be'ahava. C'est la grande fin. Qu'est-ce qu'on dit dans ce mot-là? On dit qu'on bénit Akadosh Baruch Hu qui nous a choisis. Il y a un ordre, c'est pas pour rien s'il y a cet ordre dans le Kriyat Shema.
Notre corps.
Qu'est-ce qu'il explique le Mohan Zaken? Mohan Zaken dit bien sûr qu'il y a un ordre. Quoi alors qu'il y a ici? Parce qu'en vérité, tout ça, c'est une préparation pour le Kriyat Shema. À quoi on doit arriver au Kriyat Shema? Au Kriyat Shema, on doit arriver au niveau de Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha ou Bechol Meodecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Il a expliqué ce quoi Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha. Je ne vais pas revenir dessus. Il a expliqué, ça veut dire qu'on doit être capable de sacrifier son argent, même sa vie pour Akadosh Baruch Hu, même ses kiffs personnels, sa femme et ses enfants. Ça veut dire sa femme et ses enfants? Ça veut dire le côté humain qu'on a, que j'aime avoir une femme et des enfants, ça fait partie de mon existence. Pour exister, il faut que j'ai une femme et des enfants. Même ça, je sacrifie à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi j'existe? Ve'aftat Hashem Elokecha, j'existe pour un Kadosh Baruch Hu. Comment je peux arriver à ça? Comment c'est possible d'arriver à ça? La réponse se trouve dans les deux brachot qui avant le Kriyat Shema. Si je me suis bien préparé avant le Kriyat Shema, donc c'est une logique qu'on peut appliquer pendant toute la journée, mais bon, c'est une logique qu'on retrouve dans la tefila. Si je me suis préparé avant le Kriyat Shema, si je me suis préparé au fait que Akadosh Baruch Hu, par rapport à l'effort entre guillemets qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous créer, le fait que nous on sacrifie notre ego, c'est rien du tout. On va reprendre l'exemple du clochard que le roi a fait rentrer dans son palais. Même si le clochard à ce moment-là il va se dire mais c'est un effort pour moi d'aimer le roi maintenant. Mais il va réaliser que le fait d'aimer le roi, c'est rien par rapport à l'effort que le roi vient de faire pour lui. C'est rien du tout, c'est incomparable. Mais le roi, il doit rien, il n'a rien à faire de moi. Le petit effort que je vais faire, c'est rien par rapport à ce Kadosh Baruch Hu, attendez-moi. Donc, on va développer un peu plus ce concept aujourd'hui. Explique la demande à Sakanen. Je crois que c'était David, je ne sais pas qui va nous ramener. Il est parti chercher. Chercher la bourra.
Pas que. Pas avant.
Ah, les boissons, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'a expliqué l'Admor HaZaken? L'Admor HaZaken a expliqué que tout est dans l'introduction du Kriyat Shema. Que si avant le Kriyat Shema, je vais finir avec ça, donc après on va démarrer dans les mots. Si avant le Kriyat Shema, on s'est bien préparé. Si avant le Kriyat Shema, on s'est bien préparé au fait qu'à réaliser qu'en vérité, on n'est rien face à Kadosh Baruch Hu. Et qu'en vérité, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous intéresse, c'est rien par rapport à Kadosh Baruch Hu. Là, dans ce cas-là, quand on arrive au Kriyat Shema, là, on est préparé. Je vais raconter juste une petite histoire pour illustrer ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le monde autour de nous n'est rien du tout? Une histoire qui s'est passée il y a quelques années en Russie. Vous savez qu'en Russie, jusqu'à il y a à peu près 15 ans, il n'y avait pas de vie juive. La vie juive n'existait pas. 15, 20 ans peut-être. Il n'y avait pas de vie juive.
Au moins.
D'accord? Bon, après, ça a pris du temps. Même une fois que... Même après, comment il s'appelle Boris... Comment il s'appelle celui qui a...
Yeltsin,
c'est ça? Même une fois que... Ça a pris du temps après pour
non, c'est Gorbatchev.
Pour la communauté. C'est Gorbatchev qui c'est quand même?
C'est Gorbatchev.
Le rideau de fer?
C'est Gorbatchev. Bon.
Il y avait une vie juive, même le côté du rideau.
Il y avait une vie juive, d'accord. Il y avait une vie juive, mais vraiment cachée. C'est une histoire qui se passe il y a quelques années. Vous savez que Baruch Hashem en Russie, il y a énormément de shluchim de Chabad. D'accord. Aujourd'hui, ils sont plus de 300 familles qui sont réparties un peu partout. Baruch Hashem, ils ont réussi à rouvrir presque la majorité des synagogues qui étaient fermées. Il y a des synagogues qui ont été détruites. Ça a détruites. Mais il y a beaucoup de synagogues qui existaient encore, hein, des monuments historiques, etc. Baruch Hashem, la majorité a déjà pu être reconvertie en synagogue. D'accord. Des fois, c'était les gymnases, des fois, c'était etc. Il y a une histoire qui s'est passée il y a quelques années. C'était donc dans une ville, je ne sais plus quelle ville en Russie. Donc, c'était une école que donc le Shliach Chabad il est venu, donc il a eu ses enfants qui sont nés là-bas, etc. Il a rouvert la synagogue, ils ont fondé une école. Comme ils ont fondé une école sous contrat, là-bas, on ne peut pas toujours choisir les professeurs, je ne sais pas comment c'est en France, on ne peut pas toujours choisir les professeurs, et des fois, quand l'État nous impose des professeurs, on est obligé de les prendre. D'accord ? On connaît ça ? Bon. Ceux qui veulent ne pas connaître, ils prennent des coups. Donc, ce qui se passe, d'accord, c'était qu'une des professeurs d'histoire, cette école, c'était une professeure d'histoire qui était très marxiste, d'accord, très socialiste.
À gauche.
Très socialiste. Et un jour, un peu avant les examens, elle a décidé de leur faire un petit contrôle, comme ce petit contrôle d'histoire. Tu sais, il leur donne des dates, il dit qu'est-ce qui s'est passé, quel grand événement s'est passé dans cette date. Donc elle leur pose la question à la classe. Donc dans la classe, il y a plusieurs enfants, des enfants locaux, mais il y a aussi les enfants Chabad, qui sont des shluchim. Donc elle pose la question, elle leur demande, elle leur dit, qu'est-ce qui s'est passé en 1799? C'est quoi le grand événement de 1799? Qu'est-ce qu'il répond l'enfant Chabad sans se démonter tout de suite, hein, sur place? Il dit, en 1799, il y a eu Yutet qui se lève. Yutet qui se lève. Le rabbi Shneur Zalman était libéré. Le prof, elle le regarde. Il dit, oui, c'est quoi ça, Rabbi Shneur Zalman? Là, il lui dit, oui, le fondateur du mouvement Chabad, etc.
Il a fait du Uparasta.
Alors, la prof, elle lui dit, tout d'abord, je ne sais pas si Rabbi Shneur Zalman, pour Rabbi Shneur Zalman, a existé. Même s'il a existé, je ne sais pas s'il est en prison. Même si, à la ruche, comme ça, les ruches réfléchissent beaucoup comme ça. Même s'il est en prison, je ne sais pas s'il a été libéré. Et même s'il a été libéré, j'en ai rien à faire. C'est pas ça ce qui se passait en 1799. Ce qui s'est passé en 1799, c'est que Pouchkine est né. Alexander Pouchkine est né. Bon, chez les Russes, Alexander Pouchkine, c'est une grande figure. Bon, très bien. Bon, l'enfant il dit, ok, d'accord, Pouchkine. Bon, là, je reviens. Ensuite, la prof continue, etc. Elle leur pose la question, elle leur dit, quel grand événement s'est passé en 1812? Qu'est-ce qu'il répond le gosse, toujours le même gosse? Il dit, Pouchkine a fait sa bar mitzvah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tellement il a la tête dans la kdusha, que pour lui, c'est... Bah, maintenant, quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, il a presque envie de se moquer. Il dit, mais attends, quel rapport entre Pouchkine maintenant, d'avoir été même pas juif? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête, cet enfant-là? Eh ben non. Puis on dit, là, de Mourazaken, c'est qu'en vérité, on doit s'habituer... Le but des brachot qu'il y a avant le Kriyat Shema sont justement pour montrer à l'homme que notre vie... L'existence, l'ego qu'on a autour de notre vie, c'est rien du tout par rapport à ce qui se passe réellement. Donc en vérité, on doit être prêt à sacrifier tout ça. C'est comme le clochard qui est dans le palais du roi, qui se dit, mais attends, mais moi je voulais pas, j'avais des principes, etc. Mais au moment, quand il est devant le roi, il réalise que c'est rien tout ça par rapport à l'effort que le roi a fait. Que sacrifier ça, c'est rien du tout. Donc ce qu'on demande de nous, pourquoi toute cette introduction des brachot du Kriyat Shema, toute cette introduction dans laquelle c'est bien calculé, tout d'abord on montre... On essaye d'émerveiller l'homme avec les malachim, etc., la créature. Après, on explique, et toi, t'es encore mieux qu'eux. Pourquoi tout ça? Pour arriver à Bechol Levavecha, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha. Pour arriver au fait qu'à un certain moment, peut-être une fois sur mille qu'on va faire le Kriyat Shema, on va arriver à la conclusion de dire, mais finalement, Bechol Levavecha, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha, il faut tout donner pour Akadosh Baruch Hu. Toute ma vie, il faut la donner pour Akadosh Baruch Hu. Et le calcul que je dois avoir à chaque fois avant de faire quelque chose, pas seulement une mitzvah, mais avant d'avancer dans ma vie, c'est pas est-ce que je veux faire ou est-ce que je ne veux pas faire. C'est est-ce que Dieu veut que je fasse ou Dieu ne veut pas que je fasse? C'est ça, Bechol Levavecha, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha. Maintenant, il y a la grande question que Guy avait posée la semaine dernière. C'est quoi la question que tu avais posée la semaine dernière?
Grande question.
D'accord. C'est quoi la grande question? La question, c'est quoi la question? Tu te rappelles la question?
C'est pourquoi?
Alors,
quel intérêt?
Voilà. Quel intérêt d'aimer Akadosh Baruch Hu? Ok, donc apparemment, on a compris. Le but de toute cette fila, on arrive jusqu'à la Amida, enfin jusqu'au Kriyat Shema pour l'instant. Oh, l'Amida, on n'est pas encore, hein. Pour l'instant, on est Kriyat Shema. Et au Kriyat Shema, viens, faites Hachem le grand, on va aimer Hachem. Ok, et après, ça y est, j'aime Hachem, sacrifie tout pour Hachem. Ça y est, après c'est fini. C'est ça, c'est ce que j'attends de nous, qu'on sacrifie tout pour lui, c'est tout, c'est fini, et après on s'arrête là. Je dis non. Allez. Ah. Qu'est-ce qu'il va dire à moi, Jacqueline? Ah. Ça va être un ah, c'est ça?
Quel?
J'ai dit de tête, mais... Cependant, la personne, une fois qu'il va arriver au Kriyat Shema, à quelle conclusion il va arriver? Encore une fois, on parle du Kriyat Shema qu'il faisait à l'époque. À l'époque, ils arrivaient à ce niveau-là. Nous, aujourd'hui, on essaye d'arriver à ce niveau-là, au moins, en Rosh Hashanah et Kippour. Bon. Donc, une fois que j'arrive à ce niveau-là et que j'ai décidé de tout sacrifier pour un Kadosh Baruch Hu, alors après, je fais quoi? Il dit, la Zéhamar, c'est pour ça que dans le Kriyat Shema il continue, il dit... Oui. Vous n'étiez pas là au cours, on en a parlé.
Est-ce que
je peux me permettre.
Ah, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire consacré?
Non, c'est plus que ça. Parce que quand je dis je consacre quelque chose à quelqu'un...
Je consacre tout à Dieu.
Non, c'est plus que ça.
Mais pas souvent,
on avait expliqué que c'est encore plus que ça. C'est pas seulement consacré. C'est arriver à la conclusion que finalement je ne suis rien du tout devant un Kadosh Baruch Hu. Pas seulement consacré. Parce que quand je dis consacré, ça veut dire que j'ai consacré quelque chose à Dieu. Donc il y a toujours le je. Je me consacre à Dieu. On a expliqué que Bechol Levavra, Bechol Amshecha, Bechol Modecha, ça veut dire que je dois arriver à la conclusion que je n'existe pas face à Kadosh Baruch Hu. Et le semblant d'existence que j'ai, en vérité, c'est faux, ça n'existe pas. Je dois le sacrifier pour un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le calcul que je dois avoir à chaque fois, avant de faire une mitzvah, ou avant d'aider quelqu'un, ou avant d'avancer, c'est pas est-ce que je me consacre à Dieu ou pas. Non, c'est pas ça mon calcul. C'est qu'est-ce que Dieu en pense. C'est-à-dire, je n'existe même pas. Apparemment, le Mourazaké nous a expliqué que je fais le pshat de Bechol et Babra, Bechana, Bechana, Bechol, Modecha. C'est très difficile. Il a posé la question, il a dit, mais c'est impossible d'arriver à ça.
La demande azakienne ne dit pas tu dois être prêt à te sacrifier à ce moment-là, toi-même, et qu'ils disent tu dois être prêt à sacrifier ta femme et tes enfants.
J'ai pas compris.
Là, il a dit, quand il les vaquera, etc., il a parlé de la femme et des enfants.
Il a parlé de l'amour de la femme et des enfants.
C'est ça.
Ouais. Ah, c'est pas la même chose.
Ouais. L'homme doit être prêt à sacrifier ou à abandonner tout ce qu'il retient,
sa femme
et ses enfants, pour l'amour de la
personne. On n'a pas dit ça. Non. Il n'a pas dit ça. Parce que j'ai une obligation. Non, j'ai compris ta question. On en avait parlé. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit je dois sacrifier ma femme et mes enfants. Il n'a pas dit que si ma femme me demande quelque chose et que moi je vais aller à un cours de Torah, je vais aller au cours de Torah et je vais laisser ma femme.
Au moment du Shema Israël, on doit tout laisser tomber. Même l'amour, il n'y aurait personne.
Au moment du Shema Israël, on doit oublier tout amour qui est égoïste. D'accord ? C'est ça. Tout amour. Ça ne veut pas dire que je dois arrêter de m'occuper de ma femme. Au contraire. Ça veut dire que des fois, je ne veux pas venir au cours de Torah. Pourquoi je ne vais pas venir ? Parce que si je vais calculer qu'est-ce que Dieu attend de moi, est-ce que Dieu attend de moi maintenant que je vienne ou que j'aide ma femme ? Peut-être que Dieu attend de moi que j'aide ma femme ?
Moi, je parle au moment
c'est l'exemple qu'on avait dit il y a 3 semaines.
Au moment où on fait Shema Israël.
Oui. Au moment où on fait Shema Israël, l'homme doit arriver à la conclusion qu'il sacrifie tout pour un tel enfant.
Ok, donc on parle bien de la femme et des enfants.
Tout.
Il parle bien explicitement de la femme et des enfants.
Il a dit Bechol Levavra, oui, bien sûr.
C'est bizarre qu'il n'ait pas parlé de soi-même. Qu'il n'ait pas dit on doit être prêt à sacrifier sa propre vie. C'est ça que je veux dire.
Ah. Il a dit dans Bechol Nafshecha.
Il l'a dit là.
Bien sûr.
Ah, d'accord.
Bechol Vavra, Bechol Nafshecha, l'imshon Nefesh, il a dit. Donnez. Viti, ar, er, iprinatik davkut rucha berucha, la ze amar, c'est pour ça que c'est écrit, va yu advar ima ele, al levavra ve dibar taba. Qu'est-ce qu'il dit là de Moazaken ? Comment on peut arriver au niveau de Iddabkut? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu m'as dit, le but de tout ça, c'est quoi ? C'est quand j'arrive à Bechol Levavra, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha, je dis, ah, ça y est, maintenant je vais m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors, mais je fais quoi pour m'attacher à Kadosh Baruch Hu ? Je fais quoi pour me lier à Kadosh Baruch Hu ? Qu'est-ce qu'il dit juste après dans le Kriyat Shema ? Va yu advarim aele acharn, etc. Al levavra vedibar tabam. Comme ce qu'on a expliqué la semaine dernière, comment je peux m'attacher réellement à quelqu'un ? Les gens, ils pensent que comment je vais m'attacher réellement à quelqu'un ? C'est quand je vais l'enlacer. C'est quand je vais avoir des relations avec lui. Donc la même chose. On pense que comment je vais m'attacher réellement avec Kadosh Baruch Hu ? C'est quand je vais l'aimer. C'est le plus grand amour qu'il peut y avoir. Quand je vais aimer à Kadosh Baruch Hu, quand je vais avoir un sentiment d'amour, ça y est, j'ai atteint le paroxysme, je suis arrivé au plus haut niveau, c'est bon, je peux dire que j'ai atteint le but. Dit l'Admor HaZaken, c'est pas ça le but. Moshe Katouf Be'etzraïm, comme c'est expliqué au nom du Etzraïm, donc du Rabbi Chaim Vital, Shihud Aneshikin, Ikaro Yichud Chabad Bechabad. Qu'est-ce qu'il explique là-bas Rabbi Chaim Vital ? Rabbi Chaim Vital, il dit que le niveau le plus fort d'attachement qu'ils pourront pas avoir entre deux personnes, c'est quand l'intellect va s'attacher avec l'intellect. Ça veut dire que, comme on a expliqué la semaine dernière, le niveau le plus fort qu'il peut avoir, par exemple, dans l'attachement qu'il va avoir entre un homme et une femme, d'accord, c'est ni dans le fait qu'ils vont s'embrasser, ni dans le fait qu'ils vont s'enlacer, c'est dans rien de tout ça, pas du tout. C'est dans le fait qu'ils vont être capables de partager la même pensée. Ichut chabad bechabad, ça veut dire partager la même pensée. Chochma binadat.
Ça va au-delà du corps.
Très bien. Alors, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ? D'accord ? C'est-à-dire une fois que maintenant je suis arrivé à un niveau que j'ai envie de m'attacher à Kadosh Baruch Hu, alors je fais quoi ? Ou Iyun à Torah, d'accord ? Et là, c'est lorsqu'une personne, Iyun à Torah, va s'approfondir dans la Torah. Ça veut dire que, comme ce qu'on a expliqué la semaine dernière, lorsque je quitte la synagogue, et que j'ai fait une bonne fila, et que suite à cette bonne fila, je sens que j'ai envie de m'attacher à Kadosh Baruch Hu, je sens que j'ai envie de sacrifier ma vie à Kadosh Baruch Hu, je sens que je me dis tout ce... Ça veut dire que c'est pas est-ce que je veux ou je veux pas. Je me dis, j'ai envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de tout donner à Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là une fois que j'ai fini ma tefila ? Une fois que j'ai fini ma tefila, qu'est-ce que dit la Gemara ? Rabbi Yoshua ben Levi dit on va mi Beit HaKnesset, le Beit HaMidrash. Du Beit HaKnesset, on va Beit HaMidrash. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais étudier la Torah, lorsque je vais attacher l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire qui est la Torah avec mon esprit, ça c'est le plus grand niveau d'attachement qui peut exister. Ça c'est Ichud Neshikin.
Tout à l'heure, tu as dit le contraire un petit peu. Tu as dit peut-être que Hachem, ce qu'il attend de moi, c'est pas que j'aille au cours.
Très bien.
Et puis je reste avec moi.
Bonne question.
C'est le rouge,
moi.
C'est un
tzadik. Moi, je suis un russe.
Non, tzadik, c'est Gagin.
Russe, c'est rouge. Là.
Russe. Blanc.
Hein. Oui. On n'est pas au niveau de Gismadjan.
Rabbi David.
Oui.
Blanc ou rouge ?
Rouge, franchement.
Dis sans te commander.
Les deux, un peu les deux.
Ça mérite pas, là.
On a proposé la houga, peut-être que les deux.
J'ai une bourrade.
Merci beaucoup.
Bon, on va t'abonner le problème, je suis à Cologne, évidemment.
Amen. Alors ? Le rouge, s'il vous plaît, monsieur. Toi, tu veux du blanc ?
Pas grave.
Un peu de rouge.
Tu veux du rouge ?
Moi, je sers le blanc.
À ce moment, ça me change. Maintenant, ça me change rien.
Je suis désolé.
Il faut préciser qu'on parle de coca parce que dans l'enregistrement.
Ah oui, pour ceux qui l'ont justement après.
Pour David. Pour David.
Moi, par contre, je voulais du blanc.
Alors Iyuna Torah VAP. Ou Iyuna Torah VAP. Ou Motse Aruar Vegilou et Prinat Gilouy. Vainu Prinat Adibour de Divreto. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Admor Hazaken ? L'Admor Hazaken nous dit la chose. Ce qu'il veut nous expliquer, c'est la chose suivante. C'est très intéressant ce qu'il va expliquer ici. Si dès le départ, d'accord, sans faire de tfila, sans chercher à m'attacher à Kadosh Baruch Hu, directement je prends une page de Gemara, je vais me mettre à l'étudier. D'accord ? Est-ce qu'on va dire que lorsque je suis en train d'étudier la Gemara, je sens que je vais m'attacher à Kadosh Baruch Hu ? La réponse est clairement non. Pourquoi non ? Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas en train de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Enfin, en tout cas, je ne sens pas que je suis en train de m'attacher à Kadosh Baruch Hu, même si peut-être c'est ce qui se passe derrière, c'est ce qui se passe derrière les coulisses. Mais je ne sens pas que je suis en train de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu de préparation. Si je le fais, je le fais pour moi. Je le fais parce que j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'étudier, j'ai envie de comprendre. Mais si l'étude va venir suite à la tfila, et que qu'est-ce que j'ai fait dans la tfila ? Donc la tfila, c'est une préparation. Qu'est-ce que j'ai fait dans la tfila ? Dans la tfila, je suis arrivé à la conclusion qu'il faut tout sacrifier pour un Kadosh Baruch Hu. Et que Ve'aftet Hashem Elokecha, il faut aimer un Kadosh Baruch Hu. Et aimer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sacrifier tout ce que j'ai pour la personne. Pas seulement consacrer, quand on a dit sacrifier tout ce que j'ai pour la personne. Alors après, je me pose la question, je me dis, mais comment je peux m'attacher à Kadosh Baruch Hu ? Comment je peux m'attacher à cette personne ? D'accord ? Comme on dit en général, les gens qui s'aiment très fort, on dit qu'à un certain moment, ils n'arrivent plus à avancer plus loin. Ils disent, mais comment je fais pour aller plus loin ? Qu'est-ce qu'on te dit dans la Torah ? Comment tu fais pour aller plus loin ? Il faut ichut rabat bechabad. Il faut unir la pensée avec la pensée. C'est-à-dire que la seule manière, c'est lorsque, après la tfila, tu vas ouvrir une page de Gemara où tu vas étudier un Dvar Torah. Ce Dvar Torah que tu vas étudier après la tfila, il aura toute une autre valeur. Ce Dvar Torah que tu vas étudier après la tfila de Rosh Hashanah, ça ne sera pas du tout le même Dvar Torah que tu aurais étudié un simple mercredi. Pourquoi ? Parce que le Dvar Torah que tu étudies un simple mercredi, tu ne l'étudies pas forcément pour un Kadosh Baruch Hu, tu l'étudies peut-être pour toi. Tu ne sens pas comment tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Si ce Dvar Torah, tu vas l'étudier après que tu as décidé de t'attacher à Kadosh Baruch Hu, et là tu vas essayer d'exprimer ton attachement à Kadosh Baruch Hu, tu vas dire comment j'exprime mon attachement à Kadosh Baruch Hu en étudiant la Torah, là à ce moment-là, ce Dvar Torah, il aura toute une autre valeur. Il va amener des preuves, je vais avancer quelques lignes, après on va expliquer.
Oui.
D'accord ? Dit ici, comme c'est écrit, qui al motsapi Hashem, ichie Adam. La grande question qu'on se pose, d'accord, c'est que tu me dis qu'apparemment, le but de l'étude de la Torah, ça veut dire que le but n'est pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le but de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, on a dit, c'est quoi ? C'est le fait qu'après, grâce à l'amour que j'ai envers Akadosh Baruch Hu, grâce à ça, je vais m'attacher à Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de l'Imouda Torah. Très bien. Ça veut dire que c'est un attachement très profond. Ce qui dérange l'Admor Hazaken ici, c'est que pourtant on voit que dans le Limoud Torah, il y a une mitzvah particulière d'étudier la Torah à Bédibour, avec la parole physique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que étudier la Torah, hein, c'est une grande question existentielle qui est posée à Morazaken, parce que les goyim nous ont beaucoup reproché ça, très souvent. Les goyim nous disent, on veut bien accepter que votre Torah c'est une science, et qu'une science ça s'étudie comme on l'étudie dans une bibliothèque, ça veut dire que ça s'étudie dans le calme et dans la tranquillité. On n'a pas besoin de faire appel à la parole, on n'a pas besoin de crier, de bouger, etc. Qu'est-ce qu'on voit dans la Torah ? On voit dans la Torah que dès qu'on se met à étudier les Dvar Torah, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit ? D'abord, il y a une mitzvah particulière de dire des divrei Torah. Dvar en hébreu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une parole. Ça veut dire de dire physiquement les divrei Torah. Et il y a une mitzvah aussi d'essayer de faire participer tous les membres du corps dans ce Dvar Torah. Et ça dérange. Pourquoi ça dérange ? Parce que puisqu'on vient d'expliquer, le Admor Hazaken nous a dit qu'en vérité, le but de l'étude de la Torah qui vient après le Kriat Shema, c'est quoi ? Après la prière, c'est quoi ? C'est de matérialiser cet amour que j'ai envers un Kadosh Baruch Hu. C'est pas seulement un amour que j'ai envers un Kadosh Baruch Hu, mais je veux matérialiser cet amour par l'étude. C'est comme l'exemple que j'ai donné la semaine dernière avec l'homme et la femme. Que lorsqu'un homme aime très fort sa femme et qu'il a envie d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on lui dit ? La seule manière d'aller plus loin, c'est quoi ? C'est de partager avec ta femme ta pensée. Que toi, tu essayes de penser comme elle, et elle essaye de penser comme toi. Et là, on peut dire que vraiment, vous êtes un vrai couple. Et ça, c'est sans fin, ça s'arrête jamais. D'accord ? C'est ce qu'on a expliqué. Donc de la même manière, quand j'arrive au Kriyat Shema, une fois que j'arrive au Kriyat Shema, j'arrive à la conclusion que je veux tout sacrifier pour un Kadosh Baruch Hu. On te dit, une fois que tu veux tout sacrifier pour un Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut étudier la Torah. Ça veut dire que c'est quelque chose de très très fin. C'est quelque chose de très très fort, de spirituel. Que au travers du limoud de Torah, je vais essayer de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que tu me demandes de dire des dix vrais Torah? Ça, c'est une question existentielle que beaucoup de monde pose sur la Torah. Ils n'arrivent pas à comprendre. Comment ça se fait que nous, quand on étudie la Torah, hein, on doit mêler à ça tous les membres du corps? D'abord, on doit dire la Torah, d'accord? On doit dire des dix vrais Torah, s'il y a une mitzvah, de le dire verbalement. Et dans beaucoup de cas, si on ne le dit pas verbalement, on n'est pas quitte de la mitzvah. Alors, comment ça se fait? Oui.
Bizarre ce que tu dis, parce qu'il y a une question dans la Gemara,
oui.
À savoir qu'est-ce qui est important, c'est l'étude ou l'action. Et la conclusion, c'est l'étude, parce qu'elle mène à l'action.
Oui.
Donc, et c'est même marqué aussi un commentaire qui dit que si un homme, il est venu ici que pour étudier, il aurait mieux fallu qu'il vienne pas.
Oui,
et qu'il...
Oui. Bon, alors.
D'accord. Donc, d'après ça, on pourrait dire que le point le plus fort, c'est quand tu fais la mitzvah, justement, quand tu es dans l'acte.
Très bien, mais là,
et
je
pas comme dans l'étude.
Non, très bien. Là, je n'ai pas encore attaqué les mitzvahs. Là, je suis déjà dans l'étude de la Torah. Là, ce qui nous dérange, c'est le fait que dans l'étude de la Torah même, il faut matérialiser l'étude de la Torah par la parole.
Oui.
Comment ça se fait? Pourquoi? Pour l'entendre. D'accord. Pour l'entendre. Et si une personne n'a pas besoin de ça pour l'entendre?
Elle ne peut pas comprendre.
Pourquoi elle ne peut pas comprendre? T'as jamais lu un livre, t'as jamais lu un livre sans le lire verbalement?
Il n'a jamais lu un livre, de toute façon.
Non, mais je
réponds.
C'est vrai que c'est intéressant qu'en français on dit lire un livre, même quand on le lit avec les yeux. Lire, c'est... Ouais, bon, enfin, on peut lire avec les yeux.
Il y en a qui peuvent aussi.
Pourquoi on peut pas?
Je suppose, il faut le dire parce que l'oreille entend ce que tu dis.
C'est sûr ce que tu dis?
Ouais.
Quand tu as fait tes études d'informatique, par exemple, tu lisais verbalement tout ce que tu lisais?
Et qui t'a dit que j'ai appris?
Je te pose la question.
Moi aussi.
Wow.
Quand tu étais à l'école, est-ce que tu t'es prononcé tout ce que tu lisais?
J'entendais,
d'accord. Mais quand tu lisais, quand tu dévorais des livres...
Le maître.
J'entendais par le maître. Ah ben oui.
Quand tu révisais.
Ah, le questionnement. Donc toi tu dis que c'est un moyen technique. Maintenant, si quelqu'un n'en a pas besoin.
Tu partages aussi.
Et des fois des gens qui arrivent à lire beaucoup plus rapidement avec leurs yeux. Pourtant, leur vie, il y a une mitzvah particulière
de
dire le livre Torah.
Tu réfléchis.
Oui.
Je vais te dire ce qu'il dit le
Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Le Shulchan Aruch dit qu'on a l'obligation de quand on étudie la Torah, on a l'obligation de le faire verbalement. D'accord? C'est-à-dire de le dire avec. De dire vraiment, d'accord, verbalement. Et le seul cas dans lequel on a le droit de réfléchir, il dit c'est im tsarich. D'accord? Im tsarich le'ayen ktsat. Ou im tsarich le'ayen. S'il a besoin de s'approfondir. De s'approfondir sur le texte, qu'il n'arrive pas à s'approfondir. Donc bien sûr, on ne peut pas s'approfondir en parlant. Des fois, on a besoin de s'arrêter et de réfléchir. Là, il dit, tu as le droit de t'arrêter de parler. Quand on est dans Shulchan Aruch, on voit qu'on dirait quelque chose de spécial avec la parole. Si tu me dis que la Torah, c'est une science comme les autres, c'est une technique, je veux bien comprendre. Mais là, apparemment, tu es en train d'expliquer que à quel moment on peut réellement apprécier un Dvar Torah, c'est quand c'est appris une bonne fila. Une fois que j'ai fait une bonne fila, et que j'ai décidé de tout sacrifier pour un Kadosh Baruch Hu, là après, quand j'ai fait la tefila et qu'après derrière ça, je vais aller au Beit HaMidrash, je vais étudier la Torah, là on pourra dire que je vais sentir comment, grâce à cette Torah, je m'attache à Kadosh Baruch Hu, comme un homme qui va s'attacher avec sa femme par le fait qu'il va partager la même pensée que lui. Ça veut dire, c'est pas la halakha technique que je vais étudier avant la tefila que bon, j'étudie pour savoir ce que je dois faire. Non, c'est, j'ai envie de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Comment je vais m'attacher à Kadosh Baruch Hu, nous a dit le Zohar, c'est quand je vais attacher ma pensée avec sa pensée. Et dans ce cas-là, c'est très fin. C'est-à-dire c'est ma pensée avec sa pensée. Pourquoi j'ai besoin d'exprimer verbalement? Vous voyez la question qu'on se pose ici?
Oui.
Je la répète encore une fois.
Alors,
d'accord. C'est-à-dire qu'apparemment, Admor HaZaken ici, pendant 4 chapitres, il nous a construit tout un puzzle dans lequel il nous a expliqué que l'homme, il doit essayer d'arriver à la conclusion que Akadosh Baruch Hu s'est sacrifié pour lui, donc lui, il doit essayer de se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, ok. Donc du coup, Véa Ptet Hashem Elokra, du coup, il va arriver à la conclusion qu'il doit tout sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Et tout ça pourquoi? Pourquoi après, tu vas te mettre à étudier? Bon, alors je fais quoi quand j'étudie? Ok, donc je m'imagine que quand je m'étudie, je dois être dans le Olamot. Si déjà, quand j'étais en train de dans mon Kriyat Shema, j'étais en train d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'était déjà très fin. Hein. Donc j'imagine que quand je vais étudier, je dois être dans le Olamot, je dois être bien sûr, on te dit non. Quand tu étudies, il faut Dibour. Pourquoi mais Dibour? Pourquoi par la parole? Comment ça se fait?
Parce que c'est un rapport avec la matière, d'accord. Dibour déjà.
Pourquoi?
Parce que le but c'est de...
D'accord. Mais pourquoi?
De récupérer les énergies.
Pourquoi?
La matière.
Vous voyez la question qui pose cette Morazaken?
Ouais.
Ou Mikol Makom. Bon, si vous comprenez pas tout la fin de ce chapitre, c'est pas grave, parce que c'est un des morceaux les plus compliqués du Tania. Je préfère vous prévenir.
Il y a plusieurs endroits qu'on comprend pas, mais bon.
Non, on va le faire.
On va terminer.
Il nous prépare à la non-compréhension.
Non, à la non-réponse aux questions.
Non, pas du tout. Non, ça baisera ta chaîne, je ne pense pas.
C'est plus fin.
Ça, je ne pense pas. Baisera ta chaîne.
Bon, on verra.
C'est à double tranchant.
En tous les cas, il y a un mal.
Rabbi Chaim de Brisk, il avait l'habitude de dire, hein, il disait, Azazfelt in Asbore, Felt in Avane. Il disait que quand il manque, quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, d'accord, ça ne veut pas dire que je l'ai compris, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Ça veut dire qu'on ne l'a pas compris. Je vais expliquer. C'est une grande phrase, une phrase très célèbre de Rabbi Chaim de Brisk.
À l'époque, parce que c'est Boileau qui faisait
ça. Parce que Rabbi Chaim de Brisk.
C'est vrai qu'ils disent une chose. Pascal, c'est ça ? Pascal, hein, Pascal.
Non, c'est Boileau.
Non, Boileau, il a tout vu déjà.
Qu'est-ce qu'il dit, Pascal, Boileau ?
Non, ce qui se comprend, c'est non, c'est les romans.
Écoutez, c'est une capacité d'étude.
En tout cas, Rabbi Chaim de Brisk, qui l'a dit tout seul, c'est quoi ?
Boileau.
Parce que Rabbi Chaim de Brisk, il était connu pour quelqu'un qui était capable de...
C'est l'importance, ok.
Qui était capable... Il était capable d'expliquer les concepts les plus fins, il était capable de les expliquer à n'importe qui. Très très fort, Rabbi Chaim de Brisk, sur ça. Enfin, pas que sur ça, mais vraiment, c'était extraordinaire, il était capable d'expliquer à n'importe qui. Et lui, une des choses qu'il disait, que quand on n'arrive pas à... Vous allez nous trouver le proverbe ?
Ah, on va voir.
On va voir.
On va voir.
Il disait que lorsqu'on n'arrive pas à expliquer quelque chose,
voilà.
Lorsqu'on n'arrive pas à expliquer, c'est qu'on n'a pas bien compris. Bon, on verra.
Très bien.
C'est vous qui me direz si j'ai bien compris ou pas.
C'est ça, ouais. Un peu comme ça.
Hein, si je conçois clairement, si je mange clairement.
Qu'est-ce qu'il a dit ? Boileau ?
Pour l'instant, t'es seul à le dire. Hein.
Excuse-moi, non, j'étais.
C'est pas les Juifs, ça n'a aucun rapport.
D'accord, mais bon, voilà.
De toute façon, en 1812, c'était la bar mitzvah de Pushkin.
On peut avoir une culture générale, c'est pas.
Non, il a même un vrai.
Quand il y a la Torah, tu peux nous intéresser.
Regarde. La Torah. Alors, Rabbi Nishou, il y a une culture générale, c'est pas pour ça qu'il n'est pas vraiment.
On sort les noms, hein.
Je suis sûr qu'il aurait préféré naître dans une famille haredi que son père l'aurait mis dans un cheder, dans une yeshiva depuis le début.
Ah, mais ça, on sait pas.
On sait pas, le mérite est plus grand.
Pose-lui la question. Et si tu veux savoir la réponse à la question, regarde ce qu'il a fait avec ses enfants. On dit que ce qu'une personne fait avec ses enfants, c'est ce qu'il aurait toujours fait vouloir faire pour lui. On dit pour soi, une personne, des fois, son état rare, il est très fort. Mais pour ses enfants, comment une personne s'occupe de ses enfants, c'est comme ça on voit qui il est réellement. Tu vois, des fois, des gens, c'est des grands sadikis, mais leurs enfants, ils leur laissent faire toutes les bêtises. Il dit, vas-y, mon fils, éclate-toi. Il dit, ça veut dire qu'en vérité, au fond de lui, il est tordu. Et quand quelqu'un qui a fait les meilleures études, et il envoie ses enfants depuis petit au cheder à la yeshiva, d'accord ? Ça veut dire que... ce que je viens de te dire.
Oui, j'irai guerner comme étant un cheder.
Je crois pas.
C'est la vraie question.
Il faut demander à son directeur.
Pas au terme de cheder.
Si le directeur encourage les élèves à partir après le bac en yeshiva, c'est qu'on a presque un élément de réponse à la question. Vous avez trouvé le proverbe ou pas encore ?
Non. J'écoute, je suis perturbé par tout ce que j'entends. J'ai dû comprendre un peu.
Ok, venez, c'est pas la yeshiva.
Non.
Alors. Mais on encourage, ça peut être un tremplin pour la yeshiva.
Ça l'est
bon.
Ça peut l'être, ça l'est. Mais bon.
Donc, Nicole Makom, néanmoins, l'eau, yetzaye de chovat, obéhu, veyun, levado. Qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que dans l'étude de la Torah qui va venir après la tfila, c'est-à-dire dans l'étude de la Torah dans laquelle une fois qu'une personne voudra sentir qu'il est encore plus près d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, vas-y, maintenant étudie. Il dit, mais non, c'est pas ça ce que j'ai envie. Il dit, vas-y, étudie. Et étudie comment ? Verbalement, Bédibour. Le yetre yedechovato berur veyun levado atchiotsi bisfatav. La halakha est clairement dans Shulchan Aruch qu'on n'est pas quitte de la mitzvah d'étudier la Torah, d'accord, en réfléchissant uniquement atchiotsi bisfatav, tant qu'on n'a pas sorti les divrei Torah verbalement. Pourquoi ? Kede lehamshir or ensof baruch ulemata ad nefesh. Dit l'Admorazaken, la seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a demandé de dire les divrei Torah Bedibour verbalement. Tu dis, en vérité, normalement, il n'y aurait pas besoin. Et au contraire, normalement, on aurait dû dire le contraire. Normalement, on aurait dû dire que le fait d'exprimer verbalement, ça tue la Kavana. Qu'au contraire, peut-être que si une personne aurait cherché à se concentrer, si une personne avait cherché à se concentrer et essayer de ne pas parler du tout, de s'enfermer, de se concentrer, d'essayer de monter encore plus haut, peut-être qu'il serait parti encore plus haut. La seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous demande de dire verbalement, d'accord, et c'est pour ça que des fois ça prend plus de temps. Je sais pas, essayez une fois, quand vous lisez un texte, essayez une fois de lire le texte avec vos yeux, et ensuite essayez une fois de relire ce texte verbalement, et vous verrez que lire un texte verbalement, ça prend plus de temps pour le comprendre que si on lit avec les yeux. Parce que quand on lit avec les yeux voient beaucoup de choses en même temps, même si on ne se rend pas compte, mais les yeux voient beaucoup de choses. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous demande de le dire verbalement, bien qu'a priori le fait de le dire verbalement, ça peut nous déconcentrer. Et ça peut enlever ce côté de l'écoute qu'il y a à Kadosh Baruch Hu. C'est pas très grave si on ne sait pas qui c'est qui l'a dit. Hein.
Ah, non.
Donc la seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous demande de le dire verbalement, c'est pourquoi, que dès la que son a expliqué, c'est pour faire descendre Akadosh Baruch Hu le plus bas possible, pour faire participer notre âme vitale par ce sentiment qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire qu'en vérité, normalement en vérité, le Dvar Torah qu'on aurait dû étudier après la Tfila, ça aurait dû être un Dvar Torah qu'on étudie principalement par la pensée. Ça aurait dû être un Dvar Torah qu'on s'isole pour l'étudier et qu'on essaye de s'attacher un maximum à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on dit que non, au contraire. On dit, mi beta knesset le beta midrash, comme ils disent les mefarshim, que une fois qu'on quitte la synagogue, si on peut aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde, c'est encore mieux. Dans une yeshiva, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Pourquoi? Comment ça se fait? Ça déconcentre. C'est vrai que ça peut déconcentrer. Pourquoi? La seule raison, nous dit l'Admor HaZaken, pourquoi on nous demande de faire descendre ça? Pourquoi on nous demande, de dire Bédibourg et que dans un endroit où il y a du monde et toute chose qui peut nous déconcentrer?
Oui.
C'est pour faire descendre ça ad nefesh réunit. C'est parce que Kadosh Baruch Hu veut que ce sentiment qu'on a eu de très fort, il veut qu'on le fasse descendre plus bas de notre âme vitale. Pourquoi? Là, c'est un point qu'on a déjà vu dans le chapitre 36. Kede le'alot kulan l'Hashem im kol ha'olam kulo. Parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse monter tout ça, d'accord, qu'on fasse monter toute notre existence dans Akadosh Baruch Hu. Alors, je vais essayer d'expliquer ce qu'il veut dire ici l'Admor HaZaken, et vous me direz si j'ai bien compris. C'est écrit comme ça. Il y a deux Gemara. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit, d'accord, Bra Mezake Ava. D'accord, Bra Mezake Ava, qu'un fils est là pour donner du mérite à son père. C'est une première Gemara. La Gemara n'explique pas trop ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un fils est là pour donner du mérite à son père? Quelle Gemara explique ça? C'est dans Maseret Kala. Maseret Kala, c'est là-bas d'ailleurs toute la source sur le fait que les endeuillés disent Kadish.
Dans ton exemple, c'est le contraire. Hein.
Alors on va voir.
Si dans les enfants, on voit ce qu'on a pas voulu faire.
On va expliquer. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'une fois, il y a un Iftar, une personne qui est décédée, qui est venue voir Rabbi Akiva. Qui lui a dit, je ne suis pas tranquille dans les cieux. C'était un grand rachat. Il a dit, je ne suis pas tranquille dans les cieux. Le seul tikkun que je peux avoir, c'est si mon fils va dire Kadish après moi. À la base, le Kadish des endeuillés n'existait pas. Le seul Kadish qui existait, c'est le Kadish que Shter Tibori faisait, que le Khazani faisait. Le Kadish des endeuillés n'existait pas. Et donc il a dit à Rabbi Akiva, il lui a dit, sache que Maneshama a besoin d'un tikkun. Et le seul tikkun que je peux avoir actuellement, apparemment il était bloqué, c'est si mon fils va dire le Kadish après moi. Et de là la Maseret Kalan dit que c'est de là qu'on a instauré que les endeuillés ils disent le Kaddish après leurs parents. Pourquoi? C'est quoi la raison? Les commentaires expliquent quelque chose de très intéressant. Ils disent que comment ça se fait que lorsque un enfant va dire Kaddish après son père, alors c'est un tikkun pour le père. Quand ce père qui était rachat est arrivé au ciel, est arrivé dans les cieux, là-bas, on lui a posé la question, on lui dit à quoi tu as servi? Qu'est-ce que tu as fait dans le monde? Et là, il n'avait pas de réponse. Il a servi à rien du tout. Il n'a rien fait du tout. Donc on lui a dit, si tu n'as servi à rien du tout, ben dans ce cas-là, tu ne sers à rien. Dans ce cas-là, il faut que tu redescendes. Qu'est-ce qu'il est venu dire à Rabbi Akiva? Il lui dit à Rabbi Akiva, si mon fils qui descend de moi, d'accord, va dire le Kaddish après moi, donc en d'autres termes, comme le commentaire explique, c'est pas seulement le Kaddish, c'est le Kaddish avec tout ce qui va avec, comme on voit de nos yeux. C'est-à-dire qu'il va retourner vers Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, je pourrais me défendre auprès d'Akadosh Baruch Hu, je dirais, voilà ma raison d'être. C'est vrai que moi, quand j'étais dans ce monde-ci, j'ai pas assuré. Mais voilà mes descendants, ils assurent. Voilà, ils ont pris ma relève. Donc, j'ai ma raison d'exister. Qu'est-ce qu'on comprend de cette Gemara? On comprend quelque chose de très très fort. Que des fois, la raison d'être d'une personne, on ne va pas la retrouver directement chez elle, mais on va la retrouver dans sa descendance. On va la retrouver plus tard. Si on extrapole cette idée, on arrive à quel ordre d'idée, on peut expliquer que de la même manière, lorsque je vais étudier mon Dvar Torah après la Tfila, d'accord, Et lorsque je vais essayer de faire participer, par mon devoir Torah, je vais essayer de faire participer tout mon corps. C'est pour ça que je vais aller au Beit HaMidrash, et c'est tous les membres de mon corps qui vont bouger, mes mains vont bouger, mes pieds vont bouger, ma bouche, elle va bouger, ma tête va bouger, tout va bouger. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Dit l'Admor HaZaken, si on suit la logique que Rabbi Akiva dit dans Maseret Kala, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va leur donner une raison d'être à tous ces membres-là. Et on va expliquer que même si ces membres-là, là, ils n'ont pas été, ça veut dire ces membres-là, ils ne sont pas là parce que pour un Dvar Torah, ces membres-là, ils sont là parce que je leur ai donné à manger, parce que je me suis empiffré, parce que j'ai fait ce que j'ai fait. Ils ne sont pas là pour faire un Dvar Torah. Quand je vais montrer que je vais étudier un Dvar Torah, que je vais participer tous les membres de mon corps, je veux montrer que mes membres ont une raison d'être.
Alors,
d'accord. Et ça, c'est le tikkun qu'on peut avoir. Nous dit l'Admor HaZaken, c'est la raison pour laquelle, quand on étudie des divrei Torah, surtout le Dvar Torah qu'on va étudier après la Tfila, qui est le plus important. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais expliqué que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que même celui qui est très pressé et qui doit aller au travail, s'il peut s'efforcer de moins étudier un tout petit peu après la Tfila, même dans le métro s'il peut, d'étudier un tout petit peu après la Tfila le matin, c'est très important. Parce qu'on dit l'étude qu'il y a après la Tfila le matin, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante ? Parce que c'est dans cette étude-là que, ça c'est écrit, c'est dans cette étude-là qu'on va matérialiser le niveau d'attachement le plus fort qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a fait la Tfila, c'est là que je vais montrer à Kadosh Baruch que non seulement que je t'aime, mais j'attache mon esprit avec toi. Pourquoi c'est très important de le dire verbalement, et pas seulement verbalement, de faire participer tous les membres de son corps, de bouger, etc., particulièrement après la Tfila. Nous dit l'Admor HaZaken, parce que c'est comme ça qu'on va donner une raison d'être à tous les membres. C'est ça ce qui va donner la raison d'être à tous ces membres-là. C'est pour ça que ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 36, que je vous rappelle certainement de l'idée de la chaîne, on avait dit que lorsque je mange un biscuit, je vais faire une bracha sur un biscuit, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas que l'étincelle qu'il y a dans le biscuit qui va monter. Qu'est-ce qu'on avait expliqué, vous rappelez ?
Oui.
Toute la chaîne de production pour arriver au biscuit.
Qui va remonter.
C'est quoi la chaîne de production ?
Là, il n'y a pas de végétal, minéral.
C'est quoi, d'où ça vient un biscuit ? C'est du blé ? Du blé, le biscuit ? Bon, alors, c'est quoi la chaîne de fabrication qu'on a eue pour arriver jusqu'au biscuit ?
C'est le grain de blé.
Grain de blé.
Bon, avant le grain
attends.
De blé.
En disant qu'on commence au grain de blé, le grain de blé, après...
Le travail de l'homme.
Le travail de l'homme, après l'usine, après le camion, après etc. Tout ce que tu peux imaginer, d'accord ?
Le casquette, tout.
Sans... Et même, toi tu as démarré à partir du... Bon, vous vous rappelez certainement, on avait chapitre 36, c'était un grand classique d'Italien, ça. Tu peux commencer encore avant même. Parce que même celui qui a planté, d'accord ? Celui qui a planté, il a planté avec grâce à quoi ? Grâce à un grain qui vient de grâce à un grain, ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire que lorsque j'ai fait une bracha, lorsque j'ai fait une bracha sur ce biscuit-là, j'ai donné une raison d'être à toute la chaîne.
Phénomène domino.
C'est très fort. C'est ça ce que Rabbi Akiva nous a appris. C'est un grand chidouche que Rabbi Akiva nous dit. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple. Rabbi Akiva te dit, je fais une bracha sur un biscuit, je ne donne pas la raison d'être seulement au biscuit. Lorsque le fils il va faire Kaddish, on ne dit pas simplement, quand lui montera, on dira il a gagné d'Eden. Non. Il donne la raison d'être à son père et à son grand-père, etc. Donc c'est pour ça que c'est un tikkun. Et c'est pour ça que c'est lui qui doit faire Kaddish. Parce que c'est lui qui donne la raison d'être. C'est lui qui donne la raison d'être à son père. C'est très fort ce que nous dit Rabbi Akiva. Donc si on applique cette idée à nous, quand je mange mon biscuit, quand je fais une bracha sur mon biscuit, c'est toute la chaîne de production qui va monter. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais étudier maintenant mon Dvar Torah après la Tfila, et que je vais essayer de faire participer tous les membres de mon corps à ce Dvar Torah, je vais montrer que tout mon corps, tout ce qui existe, ça veut dire tout. Tous les membres de mon corps, ce que je peux, vont essayer de participer à cette Dvar Torah, vont bouger avec cette Dvar Torah. Qu'est-ce que ça voudra dire ? Ça voudra dire que leur raison d'être, d'accord, est pour cette Dvar Torah, puisqu'elle a aidé cette Dvar Torah. Grâce à ces membres-là, j'ai pu vivre mon Dvar Torah. Donc puisqu'ils m'ont aidé à vivre mon Dvar Torah, donc c'est leur raison d'être. C'est pour ça que je dis à Admor HaZaken, c'est la seule raison. Normalement, la Torah, on aurait dû l'étudier, Beyoun. Normalement, la Torah, comme toutes les sciences, on aurait dû l'étudier. Comment on dit Beyoun
avec la tête.
Avec la tête. Il y a d'autres sciences qu'on étudie verbalement comme la Torah, je sais pas, j'ai jamais vu ailleurs.
Le chant.
Non mais des sciences.
Le chant ou une science.
Non,
est-ce qu'il y a d'autres sciences qu'on étudie comme la Torah ? Est-ce qu'il y a d'autres religions qu'on étudie comme la Torah ? J'ai toujours posé la question, j'ai.
L'islam.
Bon, l'islam, mais ils comprennent pas, c'est pas la même
chose. Le bouddhisme.
Comment est-ce qu'ils nous bouddhisme ?
Oui, il faut réciter les mantras et.
Oui, mais est-ce que tu dois vivre, est-ce que tu dois
oui,
bouger
oui, pareil, ouais. comme la Gemara, pareil.
C'est-à-dire qu'ils doivent vivre, doivent...
Eux, ils font
Ravruta et tout.
J'ai vu le Dalai Lama, il faisait Ravruta, mais avec 10 personnes. C'est-à-dire que lui, il était au milieu, il y en avait 10 qui étaient autour, qui lui posaient des questions. Et puis, il fallait qu'il réponde à chaque fois. Pareil, à partir de textes, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes. Je ne vais pas développer, mais...
Merci beaucoup. Non, les mots. Dans le cas.
Dans quelle ville c'était ça?
C'était 7 ans au Tibet. 7 ans au Tibet. Quelle force.
Bon, alors, c'est bon, donc maintenant j'ai expliqué. On va revenir depuis Oumikol Makom. Et vous me direz si vous avez compris. Oumikol Makom, d'accord, donc je vais dire rapidement, viens de le lire. Oumikol Makom, je sais pas où c'est où dans, dans les mots ici, c'est comment ça. C'est Oumikol Makom. Oumikol Makom, le Yatsei de Chovato.
Même.
Comment?
Oumikol Makom. Page 139. Oumikol Makom, la ligne qui commence. Elle commence par quoi la ligne?
Hachem,
Michiel. Oumikol Makom, néanmoins. Lo Yatsei de Chovato Beiro Veyun Levado, un homme n'est pas quitte. En réfléchissant seulement et en s'approfondissant dans la Torah, dans l'étude de la Torah, Hach Yoti Bisfataf, tant qu'il n'a pas dit verbalement l'étude de la Torah. Pourquoi? Kede l'amshir, je l'ai déjà lu ça, je vais dire rapidement. Kede l'amshir Horen Savao Kulemat, Adnef, Echachéunit, Echachéunet, Vedam Adam. C'est pour amener, pour faire descendre l'énergie divine. Pour la faire descendre, pour leur donner une raison d'être, comme on va le dire dans les mots, ad nefesh achiyunit ashochenet bedam adam, jusqu'à l'âme vitale. C'est quoi l'âme vitale? L'âme vitale ashochenet bedam adam. C'est l'âme qui se trouve dans le sang de l'homme. Amit avem il de même se met à chay. Et cette âme-là, de quoi elle vit? Elle vit de tout le minéral, le végétal et l'animal qu'on a mangé. Toute la viande que j'ai mangée, toutes les plantes que j'ai mangées, toute l'eau que j'ai bu. D'accord? Ça, c'est l'âme vitale que j'ai en nous. L'âme qu'un animal a. C'est l'âme vitale. Que puisque pour faire mon Dvar Torah, je veux faire participer cette âme vitale, c'est-à-dire que je vais faire participer mon corps, qui lui-même vit grâce à ça, grâce donc au minéral, au végétal et à l'animal, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Pour faire monter tout ça vers Hachem, avec le monde entier. Maintenant, on comprend ce que ça veut dire avec le monde entier. Pourquoi avec le monde entier?
L'effet de la chaîne.
D'accord, l'effet de la chaîne. De manière à ce que Akadosh Baruch Hu va se dévoiler, d'accord, et que tout ça va s'incliner chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a expliqué? Quand deux personnes s'aiment, c'est quoi le plus haut niveau? Le plus haut niveau, on a dit, c'est quand ils vont unir leurs pensées. Là, imagine-toi que dans ce très haut niveau qui est unir la pensée, c'est le monde entier qui va participer à ça. Pourquoi? Parce que moi, pour vivre, j'ai besoin du monde entier. J'ai besoin du minéral, du végétal et de l'animal. Donc imaginez-vous comment quand chacun va faire ça, c'est pas que le bisli qui m'a aidé, que je viens de manger avant la tefila qui va m'aider. C'est toute la chaîne de production et le monde entier qui est en train de monter chez Akadosh Baruch Hu. Venik lakvod Hashem, veraou kol basar yardav. C'est ça ce que le prophète Isaïe, quand le prophète Isaïe nous dit que quand ma chair va venir, il nous dit à ce moment-là, Venik lakvod Hashem, le kavod de Dieu va se dévoiler, veraou kol basar, d'accord? Il dit à ce moment-là, tout le monde verra qui pille Hashem d'hiver. Et en vérité, c'est Dieu qui se trouve derrière tout ça. Ça veut dire quoi? Que tout va se dévoiler. Maintenant, avec l'histoire des faits de la chaîne, on comprend. Sinon, on comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le paysan qui a travaillé dans le champ, il est lié avec le bisti que j'ai mangé? Le paysan, c'est le paysan, le bisti, c'est le bisti. Maintenant, on comprend. C'est quoi Vénik Lakvod d'Hachem? C'est quoi? Qu'est-ce que veut dire le prophète Isaïe quand il dit que quand ma chair va venir, on verra comment en vérité tout ça, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu? C'est avec l'idée de la chaîne. Chez Zeu Tachlit, Ishtal Shulut Kol Olamot. Que ça, c'est le but de l'enchaînement des mondes. Ça veut dire que pour arriver jusqu'à notre monde, Liot Kvod Hashem, Mlo Kolares Alazo Dafka. Ça, c'est le grand classique qu'on a expliqué dans le chapitre 36. Que le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, c'est pour que Akadosh Baruch Hu intègre ce monde dans le plus matériellement possible. Donc, si on avait arrêté les divrei Torah seulement à la pensée, c'est pas bon. Parce que ça voudrait dire que l'attachement qu'on a avec Akadosh Baruch Hu s'arrête à notre pensée. Or, c'est pas ça ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut que le maximum, d'accord, on va participer. Donc de là, on va répondre à ta question tout à l'heure, Yaakov.
Oui.
Ta question tout à l'heure, qu'est-ce que tu as posé? Yaakov, tu as dit, oui, mais pourtant, on nous dit qu'en vérité, quand ma chère va venir, on va découvrir que les mitzvot seront plus importantes. Tu as la réponse?
Mais là même, quand tu
pourquoi mitzvot, c'est pareil. Parce qu'encore une fois, parce que je t'en ai expliqué dans le chapitre 36, grand classique du Tania, chapitre 36-37, que puisque dans la mitzvah, on fait descendre Akadosh Baruch Hu dans le monde ici-bas,
voilà.
Donc c'est ce qu'on attend, c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. De faire descendre Akadosh Baruch Hu dans la matière.
Encore plus avec
de montrer que la raison d'être de la matière, c'est pour Akadosh Baruch Hu.
Plus avec la mitzvah qu'avec l'étude. D'accord.
Pas exactement.
Parce que l'étude, c'est avec la parole, là, c'est avec tout. Avec le corps, c'est encore plus fort.
Ouais, c'est une bonne question que tu poses, mais on avait expliqué une différence. C'est une bonne question que tu poses. Tu veux répéter ta question? Bonsoir.
J'ai dit que dans le dans quand tu étudies avec le...
Non, ça va, pourquoi Bézat Hachem, tu vas citer à la fin du chapitre, quand tu dis
sur la partie que personne comprend.
Que ce qui est important, c'est de
pour l'instant, c'est compréhensible,
non, c'est pour chanter, c'est pour chanter. L'instant, c'est bien
compris. D'utiliser la parole.
Oui.
Oui.
D'accord.
Oui,
je dis que avec une mitzvah que tu fais avec ton corps, tu utilises encore plus de matériel qu'avec la parole de l'étude.
Donc, en autre terme, c'est quoi ta question?
Le top niveau pour faire ça.
Top niveau, a priori, c'est les mitzvot, c'est pas l'étude.
C'est pas l'étude.
Très bien. Alors, je vais faire un petit retour au chapitre 5.
Oui.
On avait expliqué dans le chapitre 5 une idée. Moi, j'ouvre une parenthèse que...
Et puis, juste pour aller dans le sens de Rav Osman,
oui.
Ici, il ne parle que du dibourg. Hein.
Oui.
C'est toi qui rajoutes tout le corps et tous les éléments.
Il dit à chaque fois canal. Il dira après canal.
Là, il dit qu'il prend le verset à Kol Motsapi Hashem et Adam. Motsapi, c'est le dibourg.
Oui.
Là-haut. Pas tout le reste.
D'accord. Déjà le dibourg.
Le dibourg, ça ne fait pas bouger ni mon orteil, ni mon. Je sais pas moi. Donc le dibourg, c'est le dibourg. Alors
non, mais
que peut-être.
Dit c'est qu'il y a une escarlette.
Quand je vais au Beit HaMidrash, ainsi de suite.
C'est vrai.
C'est
Béikar, la mitzvah est Béikar sur le dibourg.
C'est Archarot de la mitzvah d'aller au Beit HaMidrash.
Alors justement, c'est vrai que le principal de la mitzvah est sur le dibourg.
Voilà.
Pourquoi sur le dibourg? Parce que dans l'idée, c'est quoi le dibourg? On a expliqué une fois, je crois que c'est dans le chapitre 21. On a expliqué que c'est quoi la définition de la parole. La parole, ça veut dire externaliser quelque chose. C'est exactement le contraire de ce qu'on s'attend. Normalement, si tu me dis qu'une fois que j'ai fait ma tfila, que je veux m'attacher à Kadosh Baruch Hu, donc normalement à ce moment-là, au contraire, je dois pas externaliser.
Oui.
Je dois essayer au contraire d'intérioriser au maximum et d'essayer de m'attacher le plus à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non, dibourg. Donc dibourg, ça matérialise le fait qu'il faut matérialiser, il faut externaliser. Maintenant, une fois qu'on a le concept de dibourg, après on comprend le reste aussi. C'est encore une fois, c'est le même concept, c'est le concept du dibourg, le concept qu'on doit externaliser. C'est pour ça qu'on dit que, pourquoi on dit que lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il a créé le monde Ba'asara Ma'amarot, ou bien Aseret Adibrot, c'est quoi le terme de parole par rapport à Akadosh Baruch Hu? Dieu ne parle pas. D'accord? Pourquoi on dit que Dieu a parlé? Ça veut dire quoi que Dieu a créé le monde avec 10 paroles? Parole, ça veut dire exprimer, c'est une expression, ça veut dire extérioriser quelque chose. Ça veut dire faire quelque chose qui vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est pas moi, que c'est devenu un élément indépendant. Le concept du dibourg, c'est exactement le contraire de ce qu'on devrait s'attendre. Normalement, après la tfila, on aurait dû s'attendre au contraire, à une introspection que je me cache et que j'essaye de réfléchir et de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et on voit exactement le contraire. On se dit, non, dibourg, il faut parler. Il faut externaliser ça. Il faut extérioriser ça.
On avait vu, mais Yadarta, il faut intérioriser.
Oui. Alors, ça, c'est avant le Kriyat Shema. Avant
qu'est-ce
qu'il dit à Morazaken?
Et en plus, ça, il a dit qu'il fallait étudier.
Morazaken, il nous dit, c'est ça la force. Il nous dit que, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout est fait dans la tfila pour arriver jusqu'au Kriyat Shema. D'accord? Je ne suis pas encore arrivé à la Mida. Pour arriver sur le Kriyat Shema. On arrive sur le Kriyat Shema, on te prépare au fait qu'Israël, etc., qu'il faut s'annuler à Kadosh Baruch, etc. Et après, à la fin, une fois que tu me dis, tu aimeras Hachem ton Dieu, qu'est-ce que tu dis après? Vezibartabam. Ah, maintenant tu vas parler de la Torah, tu vas en parler.
Non,
mais je dis, mais je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Maintenant j'ai envie de sentir comment je m'attache à Kadosh Baruch. Pourquoi tu me demandes d'en parler? Je ne veux pas en parler maintenant, je ne veux pas extérioriser ça. Qu'est-ce que tu dis à de Morazaken? Il te dit, si, il faut extérioriser ça. Parce que quand on va extérioriser, quand on va extérioriser ça physiquement, c'est là qu'on va donner raison d'être, c'est là qu'on va donner la raison d'être à toute la chaîne de production.
Et surtout, c'est là que tu vas voir que tu as compris. Tu ne peux pas l'étudier.
Non, pas forcément.
Ah si.
C'est la même question, ouais.
Il relie Chabad de Chabad avec la parole. Hein.
Oui, non, mais lui, Yaakov veut dire autre chose. Oui.
Il y a que quand tu peux expliquer quelque chose et le faire comprendre que tu l'as compris.
Très bien, mais peut-être que ce qu'on s'attendait, c'est que la question qui pose le Morazaken ici, c'est que peut-être le moment, si tu as raison, dans l'absolu, tu as raison, mais après la tfila, quand la personne est dans un moment d'extase.
C'est l'opportunité la meilleure.
D'accord, c'est le meilleur moment pour étudier la Torah. C'est le meilleur moment pour étudier la Torah, ça. Ça, c'est le moment dans lequel c'est.
Tu n'as pas du tout.
D'accord. T'as pas du tout envie, bien sûr. C'est le moment dans lequel le Yetzer Hara il nous empêche le plus.
Envie, puisque
bien sûr.
On est censé. Hein, on dit non,
tu dis reste étudier un petit peu. Et à ce moment-là, normalement, ça devrait être un type d'étude dans lequel on te demande une introspection, d'étudier tout seul. Je dis non, dibourg. Si c'est pas dibourg, t'es pas qui de la mitzvah.
Mais tu as dit tout à l'heure que pour approfondir, il fallait plutôt.
Oui, alors attends, maintenant il y avait une question de Yaakov. Yaakov a posé la question tout à l'heure. Il a dit dans ce cas-là. Dans ce cas-là, le top niveau, tu dis, c'est quoi?
C'est la mitzvot.
Puisque dans les mitzvot, c'est encore plus matériel que la Torah.
Voilà. Parce que l'étude de la Torah n'est pas une mitzvot.
Alors, on avait expliqué dans le chapitre 5.
Si, mais si, c'est pas la plus matérielle.
On avait expliqué dans le chapitre 5 la chose suivante. Moi, je suppose qu'il y en a beaucoup qui doivent s'en rappeler. Dans le chapitre 5, on avait expliqué la chose suivante.
Trois ans.
D'accord. qu'il y a une différence entre la Torah et les mitzvot. Bon, ça ferait une petite razara, c'est pas grave.
La différence entre la Torah et la mitzvot.
La différence entre la Torah et la mitzvot,
les mitzvot, ça entoure. Alors que l'étude, ça va à l'intérieur, ça se mélange avec le sang.
Prochain round, tu fais le cours.
Ça rentre par la tête et le sang, il circule dans tout le corps. De la même manière, alors, la Torah, ça rentre à l'intérieur.
C'est quoi la différence entre la Torah et la mitzvot? On a dit, c'est quoi? Janvier
2007.
3 ans. Voilà. Ouais. C'est quoi la différence entre la Torah et la mitzvot? On a expliqué, c'est qu'une mitzvah, même si pour faire la mitzvah, je vais faire la mitzvah avec ma main, par exemple, avec ma main, ou avec, enfin, avec un membre de mon corps, mais on ne peut pas dire que la mitzvah a intégré le membre de mon corps.
Ma kiff.
Quand elle est finie, elle est finie.
Une fois qu'elle est finie, elle est finie. Ce qu'on a de spécial dans la Torah, d'accord, même si c'est vrai que c'est moins matériel que la mitzvah, on n'a pas ce côté matériel aussi fort que la mitzvah, mais ce qui est de très fort dans la Torah, c'est que je vais intégrer la chose et que ça va faire partie intégrante de moi. Damu vassar kipsaro, comme il avait dit. Ça fera partie intégrante de moi, ça deviendra comme mon sang. C'est-à-dire qu'après, la preuve, c'est qu'à n'importe quel instant, je peux le ressortir de ma tête. C'est-à-dire qu'il est là. Ça fait partie de moi. Et ça, c'est quelque chose de spécial qu'on a dans la Torah. Ça veut dire que ça a intégré la matière. Ça a intégré la matière.
Ouais.
Froid nucléaire.
Intégrer le noyau, ça veut dire.
Il y a quelque chose de dangereux. Enfin,
bon, première question, maintenant en avance.
Non, juste. Non, mais. Là, on a l'explication de l'allemand de HKZ, on comprend tout. Pourquoi il faut faire le schéma.
Ça fait de la chance, alors.
Pourquoi. Non, mais. Grosso modo.
Je rattache après le chapitre 50, je vais vous faire un résumé. Et vous allez bien comprendre tout le.
Grosso modo, c'est celui qui revient sur le sujet et qui il va pouvoir comprendre grosso modo ce que tu viens d'expliquer. Bon. Mais ça pose un problème.
Grosso modo.
Ça veut dire qu'on a compris qu'est-ce qu'Adosh Borou il veut.
Grosso modo.
On a compris le projet divin. Alors qu'on sait qu'Adosh Borou, par principe, il est incompréhensible et qu'il y a eu une cassure.
On n'a pas compris le projet divin. On a compris ce que Dieu attend de nous pour qu'il accomplisse son projet. C'est la grande question, ça, qu'on a posée au chapitre 36. On n'a toujours pas trouvé de réponse. On a dit qu'on ne sait pas pourquoi Dieu attend de nous de ça. Qu'est-ce que Dieu il a de ça et qu'on va souffrir et qu'on va quand même se renforcer. On va se renforcer et on va casser notre terrain. Qu'est-ce qu'il a Dieu de ça? Ça, c'est toujours. La seule qu'on sait, c'est qu'il attend ça de nous.
Tu veux tenir avec la pensée d'Adosh Borou alors qu'on a dit qu'il y avait une cassure. Avec le symptôme, on a vu ça.
On peut pas.
Et qu'on peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait alors?
Mais Dieu nous a donné le plan. Il nous a dit qu'est-ce que je dois faire, ce qu'on a expliqué.
Qu'est-ce que je dois faire?
Voilà.
Mais pas venir.
On finit avec la cassure.
C'est la cassure.
Voilà.
Bon, ok.
Dans les mots.
Akitsu.
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 Voilà, on finit avec la cassure.
Voilà. C'est pas de Tunis, là.
Non.
Chez eux, ou t'as son qui dit. Dans les mots, les prinat gilou, il est afra, chachor, alin ora, ou mythe, kumerir, ou les mythes, qu'à canal barichout. D'accord?
Barichout.
Voilà. Comme ce qu'on a expliqué longuement précédemment, donc chapitre 36, 37, 38, mais bon, on a eu un peu partout cette idée-là, c'est une idée conductrice du Tania, que le but de nos mitzvot, c'est quoi? C'est pas simplement pour la mitzvah qu'on est en train de faire, mais c'est pour toute la chaîne de production. C'était une idée qu'on a répétée plusieurs fois dans le Tania. Vezeu tachlit, Kavanat Adam. Bavodato. Donc c'est ça qu'est-ce que le Zohar avait dit. Le Zohar avait dit que le but de la création du monde, c'est pour transformer l'obscurité en lumière et ce qui est d'amer en doux. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui est amer, je le transforme en quelque chose de doux. Comment je fais ça? Quand je fais ma mitzvah, dans ce cas-là, c'est toute la chaîne de production qui va monter. Vezeu tachlit, Kavanat Adam, Bavodato. Et ça, c'est le but. Kavanat Adam. D'accord? Ça, c'est le but de la Kavana que doit avoir l'homme, Bavodato, dans son service divin. Le but de l'homme, c'est pas d'arriver à un niveau de Avat Hashem, d'amour vers un Kadosh Baruch Hu, comme dans d'autres religions. Dans d'autres religions, on te dit, le plus haut niveau que tu vas avoir, c'est quoi le summum? C'est lorsque tu arrives à t'attacher à la chose. Lorsque tu t'attaches à la chose, lorsque tu aimes la chose, ça y est, c'est le niveau le plus haut. C'est le summum. Ça y est, t'as atteint le summum. Dis non. Mais Zeu Tachlit Kavana Tadam Bavodato. C'est ça le but et la Kavana, l'intention que l'homme doit avoir dans son service divin. Le Hamshir Or En Sof Baruch Hu Le Mata. De faire descendre un Kadosh Baruch Hu en bas. Dira Betartonim.
Les électroyements très puissants.
D'accord. C'est ça le but pour lequel Kadosh Baruch Hu nous a créé. Rak, seulement, pour répondre à la question de M. Belassen, Sarif Trila à Alat Man. On va faire un peu de Zohar, là. Là, on explique la chose suivante. Il dit qu'il y a... Il y a Man. C'est quoi Man? Man, c'est la rachetée de Maïn Nougvin. Traduction. Hein? Les eaux, comment ils traduisent ici?
Les eaux féminines.
Alors, il y a les eaux féminines et il y a Mad. Mad, pas en anglais, Mad. Ouais. Mad, d'accord. Maïn Dourkhin. D'accord. Maïn Dochin, c'est les eaux masculines. C'est quoi cette histoire, les eaux masculines et les eaux féminines? D'accord.
Un peu de bouddhisme.
C'est quoi les eaux? C'est quoi sur les eaux? D'accord. Vas-y comme ça. Maïn Nougvin, Maïn Dochin, c'est un grand concept que le Zohar explique plusieurs fois. Hein. Il dit que nous, Knesset Israël, on est comparé à Nekeva, on est comparé à la femelle par rapport à Kadosh Baruch
Hu.
Et Akadosh Baruch Hu est comparé à l'homme. D'accord, c'est le grand exemple de Shirin Shirim. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est les eaux denses. Akadosh Baruch Hu, c'est les eaux d'en haut. Et nous, nous sommes Maïn Nougvim, les eaux d'en bas. Et le Zohar dit comme ça, hein. Il dit que depuis la création du monde, il y a les eaux d'en bas, d'accord, qui sont en train de pleurer constamment et de dire Anan Bain An Lemeve Kodam Malka. On a envie d'être nous aussi devant Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, ça veut dire que Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, est en train de se plaindre constamment, mais en train d'exprimer un sentiment, de dire on a envie de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Et là, nous explique le Zohar, Akadosh Baruch Hu a créé un principe, d'accord, a créé une manière de faire, et que pour arriver à s'attacher à Akadosh Baruch Hu, on est obligé de suivre exactement cette procédure. Si on ne suit pas cette procédure, ça ne marche pas. C'est quoi la procédure que Kadosh Baruch Hu a créée? C'est exactement la même procédure qu'on retrouve entre un homme et une femme. On dit que, le Zohar, il explique là-bas, il dit que qu'est-ce qui fait qu'un homme a envie de procréer? Il faut que la femme lui donne envie. Il faut que la femme amène le cheshek, amène le désir. Une fois que la femme va créer le désir chez le mari, c'est là que le mari, il va procréer, c'est là qu'il va donner des enfants. Donc si Akadosh Baruch Hu a créé ça physiquement, c'est valable de la même manière entre nous et Akadosh Baruch Hu. Puisque le Midrash dit, quand il dit Pitrouli Kokodo Shel Mahad, va niefsach lachen ki putro shelulam. Akadosh Baruch Hu dit ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai comme la porte du Oulam. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ça veut dire la chose suivante. Ce qu'il veut dire le Zohar, c'est que le principe qu'Akadosh Baruch Hu a créé, ça sert à répondre à votre question. C'est quoi le principe que Kadosh Baruch Hu a créé? C'est que je ne peux pas venir directement et de dire à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu fasses descendre tes eaux vers moi, ça veut dire en d'autres termes, je veux que quand j'étudie la Torah, je sens comment tu descends dans la matière. J'ai envie directement, j'ouvre une page de Gemara, et directement, je veux que quand j'ouvre ma page de Gemara, tout de suite, je fais descendre à Kadosh Baruch Hu dans la matière. Non. Kadosh Baruch Hu dit, ça ne marche pas comme ça. De la même manière que le mari ne peut pas venir comme ça chez la femme, il faut que la femme lui donne envie. Et si elle ne lui donne pas envie, il ne voudra pas. Si elle n'a pas envie, ben, il ne viendra pas. De la même manière, Akadosh Baruch Hu dans le système qu'il a créé, d'accord? De la même manière, Akadosh Baruch Hu dans le système qu'il a créé, Akadosh Baruch Hu a créé le système qu'il faut qu'on lui donne envie. C'est comme ça qu'il a créé le système, encore une fois. Pourquoi, le pourquoi du comment, ne me demandez pas, j'en sais rien. Mais c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le système. Akadosh Baruch Hu a créé le système qu'il faut que l'homme donne envie à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il faut que l'homme fasse son pas. Il faut que l'homme montre à Akadosh Baruch Hu que moi, je veux m'attacher vers toi. Il faut que l'homme fasse cette fila, en d'autres termes. Celui qui dit, moi directement, je fais que du vrai Torah, pas de filant, on dit ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que toi, t'es celui qui dit, je veux directement les eaux masculines. On dit ça marche pas. Les eaux masculines, elles viennent pas comme ça. Les eaux masculines, elles peuvent venir seulement quand les eaux féminines les ont appelées.
L'évaporation.
D'accord? Une fois que les eaux féminines les ont appelées, une fois que la femme a montré à son mari qu'elle veut de lui, même si, nous dit le Zohar, même si l'effort de la femme n'est rien du tout comparé à l'effort que le mari va fournir par la suite, mais il faut que la femme fasse au moins un petit effort pour montrer à son mari que, pour éveiller le cheshek, d'accord? Pour montrer, comme il dit, le Shulchan Aruch dit qu'une femme qui dit explicitement à son mari qu'elle a envie d'avoir des relations avec lui, c'est écrit que c'est chutzpah ve'azut metzar. C'est écrit que c'est une effronterie, que c'est quelque chose de pas bien du tout et qu'il faut lui dire de ne pas le faire. Par contre, le Shulchan Aruch dit qu'au contraire, quand une femme le montre à son mari discrètement, c'est une très bonne chose, comme tu dis, pour montrer qu'elle est disposée. Il nous dit le Zohar, d'accord, le Zohar très souvent il prend des notions comme ça matérielles et il explique spirituellement. Il nous dit le Zohar, spirituellement c'est quoi? Nous aussi quand on fait notre tefila, même si pour nous notre tefila ne vaut rien par rapport à Kadosh Baruch Hu, on se dit mais qu'est-ce que c'est? On montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est disposé, c'est rien. Il dit le Zohar, c'est comme ça que ça marche. Le système marche comme ça. Il faut d'abord Maïn Nougvin, d'abord on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt, qu'on veut s'attacher à lui. Et après, le divrei Torah qui vont venir après la tefila, ça c'est Maïn Dochim, c'est quand Akadosh Baruch Hu dit, ben dans ce cas-là, je vais vous faire descendre. C'est le grand principe qu'on a, je crois qu'on l'a évoqué dans le cours de Tania, il me semble, le principe de Itaruta,
l'éveil d'en bas,
dit Tata, et Itaruta dit Ela. Que Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il y a le réveil d'en bas et le réveil d'en haut. C'est quoi la différence entre le réveil d'en bas et le réveil d'en haut? Hein?
Ben c'est celui qui fait...
Je vais accuser.
C'est quoi, hein? Oui.
Celui qui fait des choses.
C'est quoi l'image de la fusée?
Bon Dieu, il donne un petit coup de pouce et tac.
Ça, c'est le réveil d'en haut ou le réveil d'en bas?
D'en haut.
Le réveil d'en haut.
Voilà.
Et d'en bas, c'est moi, je
fais. Il donne un petit coup de pouce, oui, Mathieu.
Voilà quoi, allume.
Et le réveil d'en bas, hein. Très bien. Le réveil d'en bas, c'est quoi? C'est quand je décide d'avancer.
Ouais, c'est moi.
Alors, des fois, Kadosh Baruch Hu, il décide d'envoyer directement le réveil d'en haut. Mm. Très bien. Mais on dit qu'en général, quand à Kadosh Baruch Hu, il envoie un réveil d'en haut comme ça, dans la majorité des cas, ça ne tient pas.
Ouais.
Pourquoi il fait
d'accord.
Il le fait juste pour
pour que tu puisses. C'est un appel de phare pour dire réveille-toi. Non. Peut-être que, mais dans la majorité des cas, si un jour, un matin, on se lève, on a envie de faire une bonne journée, même si quelques heures, on va faire une bonne journée, Bezrat Hashem, mais ça va être éphémère. Pourquoi c'est éphémère? Parce que ça ne vient pas de l'homme. Nous dit le Zohar, si on veut que ça tienne, que ce soit durable, si on veut que ça ait un effet durable, on est obligé de passer par la procédure qu'on vient d'expliquer. Ouais. Il faut que les eaux féminines appellent les eaux masculines. Il faut que les eaux féminines appellent les eaux masculines, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il faut que on montre à Kadosh Baruch qu'on veut s'attacher à lui. Le Zohar, il dit que c'est pour ça que Kala, en hébreu, Kala, une fiancée, Kala, ça vient du terme Kilayon. Kilayon, en hébreu, comment on peut traduire ça? Kilayon, ça veut dire destruction.
Une femme, c'est...
Qu'est-ce qu'on remarque? D'accord.
Des fois, Baïcholou. Non?
Normalement, la femme, elle doit s'annuler devant son mari.
Oui, c'est la version de l'homme. Mais la version de la femme, elle va le détruire.
Baïcholou.
Baïcholou, c'est tout. Elle va le manger, d'ailleurs.
Elle va essayer.
Eh ben essayez, non, on parle pas de...
Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'on remarque à quel moment la graine, quand on va planter la graine, d'accord, à quel moment la graine va pouvoir donner naissance à un arbre, c'est lorsque la graine va pourrir. D'accord. Lorsque la graine va pourrir, elle va pourrir entièrement, il va rester rien du tout. Et là, une fois qu'elle va pourrir, c'est là que la terre va donner naissance à l'arbre. Pourquoi il y a ce processus? Encore une fois, c'est la même chose.
Comme l'olive.
Ça veut dire que la terre attend de la graine que la graine fasse un effort. Non, c'est pas comme l'olive. C'est pas du tout la même chose.
Quand même.
En fait, c'est aucun rapport. Excuse-moi. D'accord?
Si, l'olive, c'est aucun bon. Rapport. C'est bon, on la presse,
non,
c'est
l'olive qui sort. Non,
non, aucun rapport.
C'est pas le même processus, c'est la même idée.
Non, c'est pas aucun rapport. Parce que là, le pressé, c'est dans la graine même. Là, je vais enlever la graine.
Oui,
qu'est-ce qu'on voit dans la graine? Dans la graine, ce qu'on veut expliquer ici, c'est que c'est valable partout. D'accord, dans la graine, d'accord, une fois que la graine va se décomposer, c'est là qu'elle va donner naissance à un arbre. Donc la même manière que dit le Zohar, dit Knesset Israël, on est une Kala. Kala, ça vient du terme Kilayon, ça veut dire destruction. Ça veut dire qu'à quel moment on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'on décide de s'annuler, d'accord, de se transformer, de s'annihiler face à Kadosh Baruch Hu. D'accord.
J'ai compris.
D'accord. C'est désintégré face à Kadosh Baruch Hu.
Construction créatrice.
Merci.
Construction
créatrice.
J'ai pas compris ce que tu as dit.
C'est ce que je voulais dire.
Oui, destruction créatrice.
Oui, mais bon, on a
laissé exactement.
Comment tu peux dire ça? Tout à l'heure, tu as dit
moi,
que...
C'est pas moi qui dis.
Tu viens de donner un exemple avec la graine, avec la terre, on a compris, c'est l'homme et la femme. Okay. Donc l'homme, il doit se laisser, entre guillemets, détruire pour pouvoir pousser, donner des
chances à un nouvel arbre. Non.
Mais si, c'est ce que tu viens de dire.
Pas du tout.
J'ai pas compris.
Non, on recommence alors.
L'homme, là, c'est la femme. C'est la femme. L'homme représente la femme ici.
Non mais il a pas suivi, c'est trop
difficile. Si, non, mais dans le cas de l'homme et la femme.
Oui.
L'homme c'est la graine et la femme c'est la terre.
Dans le quoi?
Dans le cas de l'homme et la femme.
Oui.
La graine c'est
non, l'homme. C'est le concept, c'est que si la femme elle veut que son mari lui donne quelque chose, il faut d'abord qu'elle s'annule envers son mari. Comment elle s'annule envers son mari? En lui montrant qu'elle est disposée et que quelque part elle a besoin de lui.
Oui, d'accord.
C'est un principe, ça, c'est un principe de base.
Oui, ok.
D'accord.
Okay,
bon. Donc, nous explique le Zohar de la même manière. D'accord. C'est le même concept. De la même manière, si on veut que Kadosh Baruch Hu, si on veut sentir Kadosh Baruch Hu s'attache vers nous, et si on veut sentir Kadosh Baruch Hu s'attache vers la matière, si on veut que l'eau, les eaux masculines descendent en bas, il faut d'abord que les eaux féminines montrent qu'elles sont prêtes à faire un effort. Ça, c'est la tefila. Une fois que les eaux masculines ont montré qu'elles sont prêtes à faire un effort, là, nous dit la Mourazakaï, nous dit le Zohar, c'est là que les eaux masculines vont dire, bon, dans ce cas-là, on descend. Dans les mots. Vezeu tachlit kavanat adam bavodato. Les Hamshir, Or en Sov, Baruch Hu, les Mata. Ça c'est le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Rag seulement. Chez Tsarir Trila Ala Atman. C'est-à-dire que le but de la création du monde, c'est ça, c'est que Dieu descende. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu nous demandes de faire ma tefila? Le but de la création du monde, exactement, qu'elle descende tout de suite, qu'est-ce qui me prend la tête? Le but de la création du monde, c'est que les eaux masculines descendent. Alors dans ce cas-là, qu'elles descendent, qu'est-ce qui me prend la tête? Non. Rag Tsarir Trila Ala Atman. Sauf qu'il faut passer d'abord par l'étape Ala Atman, ça veut dire quoi? Itaruta Ditata. Ça veut dire qu'il faut que le réveil d'en bas, il faut que les eaux féminines montent, qu'elles ont envie de monter vers Akadosh Baruch Hu. L'imsorlo nafshu modo kaniskarlel. De montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on est prêt à donner à Akadosh Baruch Hu, je suis prêt à tout donner. Et après, c'est Akadosh Baruch Hu qui fera le reste. Et c'est ça ce que le Midrash dit dans Shir HaShirim Rabbah. Il dit, Pitrouli Kechudo Shalmachat, ouvrez-moi comme l'ouverture du chat d'une aiguille. C'est-à-dire, en d'autres termes, votre effort est un effort que moi je considère minime par rapport à ce que vous allez recevoir. Vani Eftach Lachem, qui Pitrouli Shalmachat. Et moi, je vais vous ouvrir comme la porte du Oulam. C'est-à-dire que l'Admor HaZaken, dans le chapitre 49, il nous a expliqué ici le concept de la Tfila. On va s'arrêter avec ça ici, c'est déjà l'heure. C'est quoi le but de la Tfila? Le but de la Tfila, c'est de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt à faire un effort. De montrer à Kadosh Baruch Hu que les eaux féminines vont faire un effort et qu'on a envie de monter vers Kadosh Baruch Hu. Après, le reste, c'est Kadosh Baruch Hu qui fera. Le reste, ça veut dire être capable de m'expliquer comment, quand j'ai fait une brache sur un bisli, c'est toute la chaîne de production qui est remontée, et ça, moi, je le vois pas, et je le verrai jamais. Quand ça arrivera, je le verrai. Alors, je veux dire, si je le vois pas, quoi, ça sert de le faire. Ça, tu te dis, c'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires. Moi, ce que je te demande, c'est Maïn Nougvin. D'accord? Nature business. Moi, ce que je te demande, c'est Maïn Nougvin. C'est-à-dire de me montrer que tu es prêt à faire un effort. Une fois que tu me montres que tu es prêt à faire un effort, après, le reste, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est ça le processus de la tfila. On retrouve exactement le processus de la tfila. Avant le Kriyat Shema, on n'a pas parlé de l'Amida encore. L'Amida, on parlera la semaine prochaine dans la chaîne.
C'est dans le Kriyat Shema.
Je peux encore parler de l'Amida. L'Amida, c'est encore autre chose.
Avec la pluie, le grain.
Quand je dis que c'est pas, c'est que c'est pas. Je sais ce que je dis.
Mais je te prends pas ça, c'est dans le...
Stop, c'est pas, c'est pas.
C'est un bras droit, là.
Non, il n'a pas de bras droit.
Quand ça le sera, on verra.
Je ne peux pas avoir de bras droit.
Je suis pas ta...
Mais tu sais quoi, et quand tu te fais casser et que tu réponds pas, on dit les forces,
c'est bateau.
C'est Rabbi Nachman.
Alors pour toi.
Voilà.
Il y a beaucoup de portes dans ton paradis.
J'en ai pas honte, comme on dit.
Mais cette réaction n'était-ce pas une réponse déguisée?
Non, parce que je suis en train de faire la Gemara, page 4, Brachot.
Bien sûr, c'est une réponse déguisée. C'est quoi?
Je le fais sous forme de question.
Voilà.
Mais... J'ai rien perdu.
C'est-à-dire, j'ai une réponse, mais...
Donc j'ai répondu.
Non, parce
que son père, il a fait...
C'est encore plus grave, parce que ma réponse
aurait
pu être
nulle. Son père, il avait fait un cours il y a...
Donc, ça veut dire quoi? Bon, on va pas quitter le fil. Ça veut dire quoi?
C'est un Shabbat.
Ça veut dire qu'il a expliqué ici l'Admor HaZaken. Ce qu'il a expliqué ici l'Admor HaZaken, c'est que on voit comment dans la procédure de la tfila, tout est mis, on essaye de tout faire pour que la personne arrive à la conclusion au Kriyat Shema. On n'a pas encore parlé de la Mida. Que la personne arrive à la conclusion au Kriyat Shema, que je dois sacrifier mon ego pour Akadosh Baruch Hu et que je n'ai pas ma vie propre. C'est pas j'ai donné ce que j'ai à Akadosh Baruch Hu. Je ne dois même plus exister face à Akadosh Baruch Hu. Au moins au moment du Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il nous dit après? Une fois que j'ai fini le Kriyat Shema, comment je vais matérialiser ça? On a expliqué longuement qu'on va matérialiser ça dans la Gashmiyut, dans le matériel, en extériorisant ça, bien que c'est pas logique.
Et ce, même si on ne comprend pas.
Même si on ne comprend pas. C'est pas logique. Okay. Normalement, le limoud, l'étude qu'on a après la tfila, d'accord, normalement devrait être un limoud qu'on aurait dû étudier tout seul et dans la pensée. Et au contraire, plus je suis seul dans un coin, et mieux c'est. Mais pourtant, on te dit exactement le contraire.
Mais la descente d'Akadosh Baruch Hu n'est pas proportionnelle à la compréhension que j'ai, moi, du texte.
La descente d'Akadosh Baruch Hu...
Je lis un texte à voix haute, je ne comprends absolument rien à Akadosh Baruch Hu comme dans la matière.
Oui. Non. Mais Akadosh Baruch Hu rentre dans la matière à condition que j'ai fait d'abord un effort.
Celui de la, du schéma Israël.
Voilà, l'effort du schéma Israël. C'est-à-dire l'effort... Là, c'est dans cet exemple, c'est l'effort
du schéma Israël. Il demande, est-ce que c'est proportionnel?
De manière générale, non, c'est pas proportionnel. C'est pour ça que j'ai amené l'exemple du Shir HaShirim Rabbah.
Voilà.
Comme le chat d'une aiguille et le...
C'est qu'on dit.
Mais une chose à Kadosh Baruch Hu te demande, d'accord. Une chose à Kadosh Baruch Hu te demande, c'est qu'avant de commencer à étudier, d'accord. Donc là, ça peut être le Kriyat Shema, mais ça peut être aussi une préparation, que la personne se prépare de dire que pourquoi je fais ça pour m'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont l'habitude de faire un Yeratson avant de commencer à dire le Limoud. C'est une des raisons. Qu'est-ce qu'il dit dans ce Yeratson? Ce Yeratson, ils disent que d'abord ils demandent à Kadosh Baruch Hu de ne pas se tromper. D'accord. Mais on rappelle dans ce Yeratson que... D'accord, mais on ne dit pas que ça dans ce Yeratson. Dans ce Yeratson, on dit à Kadosh Baruch Hu aussi que si on étudie la Torah, c'est pour ton kavod, c'est pour ton honneur. Pourquoi on le dit? C'est un petit peu un style de Kriyat Shema avant la Tfila. C'est le Maïn Nougvin, pour montrer à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que je vais étudier, c'est vrai que quand je vais étudier, ben mon cerveau va être occupé à comprendre une science, donc du coup, peut-être qu'on va peut-être t'oublier. Mais bon, à Kadosh Baruch Hu, sache que c'est un effort que je suis en train de faire vers toi. Donc même si c'est le chat d'une aiguille, toi, Kadosh Baruch Hu, fais le reste. C'est ce qu'on demande.
Voilà. Même si je vois pas comment tu feras le reste, c'est pas mes affaires, c'est pas mon business.
C'est pour ça que Bachelin Tov disait qu'il aimait les juifs simples.
Ça n'est pas encore arrivé à ça. Bon, là pour l'instant on parle des sujets. Attends, pas encore. Je suis pas encore arrivé à l'amida, au mitzvot, je suis pas encore arrivé à ça.
Arrivé à l'amida encore. Ça c'est encore une tentative pour l'amida.
Non mais quelqu'un qui ne comprend pas. Quelqu'un qui ne comprend pas mais qui fait un effort.
Ça fait la troisième tentative. Hein.
Ouais.
Ça après, on verra après.
C'est pour ça que ta question elle est bonne.
Ah merci, je suis content.
Ben oui, parce que ça veut dire ça, ça explique ça. Il a répondu en t'expliquant que même quelqu'un qui est simple comme
ça. On va expliquer la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va expliquer. Il y a encore un autre niveau d'amour, etc. Mais bon, on a compris le concept. Le concept, il est que Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on fasse un petit effort. Même si le petit effort est disproportionné.
Voilà.
D'accord. Mais c'est Maïn Nougvin, c'est l'homme féminine qui va amener l'homme masculin.
Alors, l'étude de la Torah, ça peut être en aparté. Ça peut être une lecture des Tehillim ou pas?
Non.
Okay. Non. Il faut que ce soit une étude.
Il faut que ce soit une étude qui intègre le matériel, donc qui intègre le cerveau de l'homme. C'est pour ça que c'est écrit que sur Torah chez BLP, c'est écrit
que deux secondes.
Alors deux secondes, c'est une bonne question que tu dis.
Il n'y a pas de compréhension nécessaire, donc ça ne peut pas intégrer le cerveau de l'homme.
Oui,
oui, ben non, mais on est bien d'accord.
Bonne question. Après la tefila, il faut privilégier particulièrement une étude que la personne comprend. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça intègre le matériel au maximum.
Donc plus tu comprends, c'est proportionnel.
Bien sûr.
Plus tu comprends et plus ça
arrive. Bien sûr, c'est sûr. Hein, c'est proportionnel, bien sûr, c'est proportionnel.
Mais juste, ça sert vite.
Non.
Alors on est...
Mais il faut, mais attention, c'est proportionnel, mais il faut que ça intègre le cerveau de l'homme.
Au moins, je sais pas.
Voilà. On explique qu'on fait la vie, c'est pas avoir fait la avant, nous.
Il y en a qui peut partir.
Combien qui peut partir?
Il y en a qui part chez moi.
C'est le cerveau de l'homme.
Ah, mais il y en a six qu'il faut qu'ils restent, ceux qui n'ont pas prié. Il y en a six qui n'ont pas prié.
C'est bon ? Je ne l'ai pas fait encore. Voilà, ça m'a dit.
Il y en a qui parlent, il y en a qui agissent.